Hommes et femmes connus et méconnus de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Pour ma part, je parle au nom de la Compagnie de Savoie, qui a pour objectif de promouvoir les valeurs des pays de Savoie, et notamment la culture, l'histoire, le patrimoine et le terroir, mais aussi de transmettre et de sauvegarder cette identité savoyarde. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un passionné de théâtre. C'est Charles Dullin. Charles Dullin est né en 1885 à Yenne, en Savoie. Il est le dernier d'une fratrie de 17 enfants. Son père, juge de paix, a lui 64 ans. De santé fragile, le garçon est choyé par Pauline, son aînée de 12 ans, qui lui apprend à lire, tandis que son oncle Joseph lui révèle Platon, La Fontaine, Molière, Racine. Selon le vœu de sa mère, il entre à 10 ans, contre son gré, au petit séminaire de Pont-de-Beauvoisin, dont il s'enfuit 5 ans plus tard et se réfugie chez Pauline à Lyon, où il tombe amoureux du théâtre et s'inscrit dans un cours d'art dramatique. Pour gagner quelques sous, il travaille chez un drapier, tout en fréquentant le milieu anarchiste et rêve de changer sa vie. Épris de liberté, il décide de monter à Paris et en 1902, où devant un public clairsemé, il lit des poèmes de Villon, Baudelaire, de Verlaine, au Lapin Agile, cabaret situé sur la butte Montmartre. Il décroche des troisièmes rôles de méchant ou de traître sur de petites scènes de quartier. Doutant de lui-même, il poursuit son apprentissage en jouant dans les Frères Karamazov de Dostoïevski aux côtés de Louis Jouvet et obtient à 26 ans son premier succès. Il rencontre une danseuse qui partage sa vie pendant quelques temps. Ses parents décédés, bien qu'ils ne reviennent que rarement en Savoie, Charles Dullin garde la nostalgie de la maison, forte de son enfance, et en parle souvent. Atteint de rhumatisme, il joue dans Jules César de Shakespeare, au théâtre de l'Odéon, et malgré la douleur se révèle un comédien de talent. La guerre éclate. Réformé, il demande à partir au front, mais supporte mal la discipline militaire. Durant les temps de repos, il déclame des textes à ses camarades de tranchée, puis monte un petit théâtre aux armées. Démobilisé en 1917, il part en tournée aux États-Unis, mais regagne vite l'Europe, car cet esprit indépendant nourrit une idée fixe, créer sa propre compagnie théâtrale. Ce serait celle de l'atelier, mais bientôt, les difficultés financières sont au rendez-vous. Pour tenter de renflouer les caisses, Charles Dullin tourne dans des films muets, dont « L'homme qui vendit son âme au diable » ou « Les trois mousquetaires », et son interprétation de Louis XI dans « Le miracle des loups » de Raymond Bernard en 1924 attire l'attention de Fritz Lang, qui lui demande de venir travailler à Hollywood. Mais l'acteur décline l'invitation. Marié à une comédienne, il triomphe au théâtre dans « L'avare de Molière », « Chacun sa vérité » de Luigi Pirandello, « Volpone » ou encore « Le renard » de Ben Jonson, pièce dont il assure la mise en scène. Son dos voûté, son visage anguleux, sa voix nasillarde le destinent à des rôles ingrats. « Le drame de ma vie », souffle-t-il. « C'est mon dos rond. Je ne peux pas jouer les rôles où l'on regarde le ciel. » Il campe un inoubliable Harpagon, ennemi de la routine. Il s'évertue à faire connaître de nouveaux acteurs, essuyant parfois des échecs, s'attirant de temps à autre les foudres des critiques et les sifflets d'un public exigeant. Mais ce perfectionniste dans l'âme fait preuve d'une opiniâtreté sans bornes. En 1927, soucieux de promouvoir le spectacle d'avant-garde par opposition au théâtre de boulevard et de favoriser un jeu plus naturel qui met en avant la qualité du texte, il s'associe à 3 autres metteurs en scène et directeurs de théâtre parisiens. Louis Jouvet, Gaston Batty, Georges Pitoëff, pour former le cartel des 4, basé sur l'estime professionnelle, le respect réciproque qu'ils ont les uns pour les autres. Pourtant, malgré leur bonne volonté, ces personnalités sont si différentes et si fortes que l'expérience ne donne pas les résultats escomptés. Mais Charles Dullin continue à peaufiner ses mises en scène et de creuser son sillon en formant de jeunes comédiens. Exigeant avec ses élèves comme il l'est avec lui-même, il accueille notamment, dans son cours d'art dramatique, une jeune et belle auditrice sans le sou, Madeleine Svodoba, qui prendra le pseudonyme de Robinson. en référence à Robinson Crusoe, symbole pour elle de liberté. Jean-Louis Barrault intègre sa troupe en 1933, année au cours de laquelle Jean Vilar assiste par hasard à une répétition de Richard III de Shakespeare. Étudiant à la Sorbonne, le Sétois de 21 ans vient de trouver sa vocation. Marcel Marceau, Alain Cuny, Jacques Dufilot, Maurice Garrel feront comme lui les premières armes sur le plateau de l'Atelier. En cette fin d'année 1933, malgré les rhumatismes qui le torturent, Charles Dullin tourne son premier film parlant, Les Misérables de Raymond Bernard, dans lequel Marguerite Moreno et lui incarnent le couple Thénardier. Et présence à l'écran se succède avec un bonheur inégal. Il se sépare de son épouse et vit avec Simone Jolivet, actrice et auteure de pièces de théâtre. Volpone est adapté au cinéma en 1940 par Maurice Tourneur. Inimitable en usurier, Charles Dullin retrouve à cette occasion Louis Jouvet. Dans Paris occupé, les théâtres rouvrent un à un, tandis que Simone Jolivet s'adonne de plus en plus à la boisson et entre certains soirs en scène ivre-morte. Charles Dullin, qui tente en vain de la détourner de l'alcool, a quitté l'Atelier pour le Théâtre Sarah Bernhardt, propriété de la ville de Paris, rebaptisé Théâtre de la Cité par les Allemands. Aujourd'hui, Théâtre de la Ville. Les spectateurs ne se bousculent pas. Les fins de mois sont difficiles. En 1943, il monte Les Mouches de Jean-Paul Sartre et passe ses très rares moments de temps libre dans sa maison de Férolles, dans le Loiret. À la Libération, âgé de 60 ans, il a de moins en moins de santé, mais dirige cependant China de Corneille avec un certain succès. C'est le moment que choisit la ville de Paris pour lui causer des tourments. Malgré de multiples relances, il n'a pas payé les loyers de la salle de théâtre depuis des lustres, alors le bail est résilié. La presse s'indigne, Paris chasse Dullin, André Gide, Louis Jouvet et d'autres protestent en sa faveur, mais rien n'y fait. Charles Dullin s'installe au Théâtre Montparnasse que dirige Marguerite Jamois, une de ses anciennes élèves avec laquelle il a joué L'Avare, sa grande réussite parmi les pièces de Molière. Il y donne L'Archipel, le Noir, d'Armand Salacrou, puis tourne en 1947 dans Quai des Orfèvres, d'Henri-Georges Clouzot, où il tient le rôle d'un vieil homme riche et pervers. Puis dans Les Jeux sont faits, de Jean Delannoy, d'après le roman de Jean-Paul Sartre. Mais il revient vite à son activité première. Car, écrit-il, à cette période, ma vie pour le théâtre n'a été, et je le sais, ne sera jusqu'à la fin qu'une lutte. Ma passion pour le théâtre reste la même. En 1949, il dirige et joue au Théâtre des Célestins, La Marâtre d'Honoré de Balzac et une nouvelle fois L'Avare, puis tombe gravement malade. Nombreux sont ses anciens élèves qui viennent le voir à l'hôpital Saint-Antoine, où il s'éteint le 11 décembre. Cette chronique est tirée d'un livre de Michel Germain, président de la Société des auteurs savoyards, et celui de Pierre Hoffmann, ces savoyards qui ont fait l'histoire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et surtout, à une prochaine fois.